Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour avec l'actualité bancaire. Toujours à la une pour démarrer cette semaine, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque nationale suisse, la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada ont annoncé hier soir un accord pour permettre l'accès au dollar de manière quotidienne. Les choses sont un peu compliquées tout de même. Crédit Suisse est repris par UBS par échange d'actions 3 milliards de francs suisses, soit 3 fois moins que la valeur de Crédit Suisse vendredi. Et bien évidemment, on sait bien que 2023 n'est pas 2008, mais tout le monde se demande depuis 10 jours, et c'est normal, si on entre dans une nouvelle crise financière systémique, est-ce qu'on paye la facture de plusieurs années d'argent gratuit ? Les banques centrales doivent-elles donc cesser de remonter les taux ? La Réserve fédérale américaine se prononcera mercredi, et même ces fameux stress tests, ces normes prudentielles mises en place et durcies après 2008, est-ce que tout ça est vraiment efficace dans la mesure où justement Crédit Suisse cochait a priori toutes les cases de solvabilité et de liquidité. On évoquera aussi la réforme des retraites. On se demande si elle peut être invalidée par le Conseil constitutionnel et si cette réforme devait ne pas aboutir, est-ce qu'il faut redouter une montée des taux des obligations assimilables du Trésor français. Olivier Babeau, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Président de l'Institut Sapiens et professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous avez publié La tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Buchet-Chastel. Christian Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, conseiller auprès d'Aurel BGC. Et Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Il y a plein de questions autour de cette actualité bancaire, Christian Parizeau. Mais vous m'avez alerté sur un point très particulier. Une décision des autorités suisses concernant les obligations.
Oui.
En marge de l'affaire Crédit Suisse. Que s'est-il passé ? Qu'a-t-il été décidé ? Et qu'est-ce que ça signifie ?
Bah, c'est un peu la bombe, moi, je trouve, dans ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait était très bien, on va dire.
Intervention des autorités, des banques centrales.
Et on a une banque qui a un vrai problème de solvabilité, donc on l'a fait reprendre.
Crédit Suisse, problème de solvabilité.
Oui, alors c'est ça qui est important. Oui, juste un petit mot, juste pour qu'on comprenne bien. Il y a deux types de problèmes quand on a une crise bancaire. On a un problème de liquidité, un problème de solvabilité ou de business model. Alors, le problème de liquidité, les banques centrales savent très bien le gérer.
Voilà.
Je vous prends un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Une banque, elle emprunte à court terme ou elle a des ressources de court terme et elle prête à long terme. Donc, elle a des engagements à long terme. Si d'un seul coup, vous ne lui faites pas confiance et que tout le monde retire ses dépôts, tout le monde demande à être remboursé à court terme, la banque, elle ne peut pas mobiliser là où elle a placé l'argent à long terme et donc elle se retrouve avec un problème de liquidité. Sauf que les banques centrales peuvent très facilement intervenir. Elles disent, vous venez à mes guichets, vous mettez des garanties et justement, les banques centrales ont limité les garanties, ont fait en sorte que ça soit plus facile pour les banques avec très peu de garanties. On a ces liquidités et je peux vous redonner vos dépôts. Donc, il y a une gestion de la liquidité, on peut le faire. Donc, il n'y a pas de risque. Les banques européennes sont cash riches. Les banques américaines, maintenant, elles ont accès à un guichet spécial pour, en plus, faire face à ça. Donc, je ne suis pas très inquiet sur l'aspect liquidité. Il y a un deuxième problème qu'ont les banques. C'est ce qu'on appelle un problème véritablement de business model. C'est est-ce que les banques ont un vrai problème dans leurs activités? Elles ont des créances douteuses. Elles ont fait des erreurs. Elles ont pris trop de risques. Et là, c'est un problème, comme vous diriez, il y a une entreprise qui n'est pas viable. Elle est économiquement pas viable. Là, il y a une banque qui n'est pas viable. Alors, quand vous êtes face à une banque comme ça, d'une grande taille, vous avez deux choses. Soit vous fermez la banque, mais c'est très compliqué à faire parce que déjà il y a des ramifications, il y a des effets en chaîne et donc véritablement elles doivent avoir un testament, ce qu'on appelle un testament pour gérer quand on est une banque systémique, mais tout le monde sait très bien que ça va être très compliqué à faire et très long et ça va être très très difficile à évaluer, ou alors vous faites un repreneur qui va racheter la banque et qui va dire bon voilà, maintenant j'empoche les paumes. Alors il y a un petit discours, un petit deal, hein. Il y a une partie qui est supportée par l'État suisse, mais une partie qui est supportée jusqu'à un certain point par UBS. Mais en gros, maintenant il y a une nouvelle entité et on va comme ça dissoudre un peu tous ces problèmes-là. Et puis on a quand même une banque UBS qui était en bonne qualité, qui avait un bon business solide. Et puis on nous dit ça va laisser le temps de restructurer. Donc du coup on évite le pire. Seul problème, c'est que les autorités suisses ont fait quelque chose qui est vraiment exceptionnel, c'est qu'ils ont dit sur une partie de la dette Donc toute banque lève de la dette. Cette dette sert de fonds propres, de garantie. Ah, oui. Si vous voulez, c'est ce qui lui permet.
Banque émet de l'obligation. Voilà. Et cette obligation
et
lui
cette
permet d'avoir
était,
des fonds
alors,
propres.
Était quasi du quasi fonds propres. C'était de la dette risquée. Mais cette dette, ils ont dit, cette dette, elle vaut zéro. Alors là où ça pose problème, c'est que les actionnaires, eux, ça vaut pas zéro. C'est-à-dire que les actionnaires, ils ont un échange de leurs actions Crédit Suisse contre des actions UBS avec une grosse décote. On est d'accord. Ils perdent 70-80% de leur valeur, mais ils sont pas à zéro. Tandis que si vous êtes détenteur obligataire, que vous avez prêté à cette banque, vous vous retrouvez avec zéro. Donc une perte totale. Alors pourquoi c'est important? Bah parce que vous envoyez un message très fort au marché qu'un détenteur obligataire est plus à risque quand il prête à une banque. C'est plus risqué que d'avoir une action de la banque.
C'est plus risqué d'avoir une obligation Crédit Suisse qu'une action Crédit Suisse.
Et ça, vous inversez les choses. Alors vous allez me dire, bon, c'est propre à Crédit Suisse. Mais non. Parce que ça veut dire que maintenant que toutes les banques, quand elles vont aller voir les marchés, ben on va leur dire, ben écoutez messieurs, vous êtes plus risqués que votre action, donc je demande une prime. Et donc ça veut dire que toutes les banques aujourd'hui qui veulent augmenter leurs fonds propres, toutes les banques qui veulent renouveler leurs obligations parce que ça arrive à terme et qu'il va falloir réemprunter au marché, ben le marché va leur dire, écoutez maintenant, donnez-moi plus de rémunération parce que si je vous prête, je prends plus de risques qu'un détenteur en action.
On va mettre combien de temps pour vérifier ce que vous dites?
Ben, ça c'est tout. Ben, on va voir dans le cours des subordonnés, alors des titres subordonnés, voir un peu comment ça va évoluer, mais c'est vraiment, vraiment une bombe à retardement parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que, grosso modo, pour toutes les banques, c'est une hausse du coût des fonds propres.
Et
donc, une hausse derrière, ça veut dire moins de capacité de faire crédit derrière, et ça baisse la rentabilité. Si je vous dis ça, ça veut dire, alors je vous fais le scénario noir, hein, volontairement, hein, si je tire ça, ça veut dire que le cours les banques vont être moins rentables, si je tire vraiment le trait jusqu'au bout. Si les banques vont être moins rentables, leur cours boursier va baisser, et donc ça leur laisse moins de capacité à lever de l'argent sur les marchés, puisque leur capitalisation fond. Et donc à ce moment-là, s'ils ont besoin vraiment d'augmenter leurs fonds propres, c'est plus dilutif pour les actionnaires, ou alors c'est plus compliqué pour lever de l'argent, ça coûte plus cher. Globalement, c'est une bombe à retardement ce qu'ils ont fait. Donc je comprends pas cette décision-là. Je comprends qu'on veuille sanctionner les détenteurs, mais il fallait donner un peu plus aux obligataires. Fallait pas faire perdre tout aux obligataires, parce
bien,
que
oui.
Les actionnaires devaient être beaucoup plus sanctionnés que les obligataires. Et en inversant ça, vous aggravez la crise. Donc, à suivre de très près, ouais. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut être déstabilisant pour la suite.
Bon, c'est un point hyper technique, on va regarder. Donc, quoi, dans la semaine, on aura des éléments?
Oui, on va voir aujourd'hui déjà. D'accord. Comment ça va se comporter. Puis déjà, on va voir les retours, parce que si ça bouge de trop sur les dettes, à mon avis, les banques, il va y avoir des réactions par rapport à ça, et on va expliquer que c'est peut-être pas très, très normal qu'on ait fait ça.
Ce que vous décrivez, c'est là où il y a un truc un peu systémique.
Alors, c'est là où c'est un peu systémique et c'est là qu'il peut y avoir un effet contagion. Et
bon, je vais pas vous demander de réagir précisément sur le. Alors allez-y, Mathieu.
Non, mais j'aimerais avoir votre. C'est une question, c'est qui détenait ces quasi-obligations en fait?
C'est sur le marché. C'est
sur le marché, mais il n'y a pas.
Il n'y
avait pas spécialement. Des institutionnels ou des banques.
Non, c'est des investisseurs. Alors ouais. Après, quand vous êtes investisseur.
Je me pose la question, pourquoi ce choix-là, en fait? C'est vrai que c'est assez particulier, quoi.
Oui, parce qu'ils ont considéré. Alors, moi, je pense qu'il y a eu véritablement un débat dans la restructuration de Crédit Suisse, puisque UBS a relevé son offre sur Crédit Suisse, notamment à cause de certains actionnaires Crédit Suisse qui estimaient pas être trop floués par l'opération. Et donc, ils ont amélioré leur offre. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans quelque chose de complètement incongru, qui est que les actionnaires sont moins pénalisés que les obligataires, et c'est ça le message, c'est à mon avis, qui est le plus négatif envoyé aujourd'hui.
Bon, ça crée des
mais après c'est vrai que c'est beaucoup de gérants peuvent avoir en diversification ce type d'obligation. Même si encore une fois c'était la partie obligataire la plus risquée, hein. Je vous dis pas que c'est
mais elle est quand même normalement moins risquée que l'action dans la hiérarchie. On est d'accord,
théoriquement c'est comme ça qu'on fait la hiérarchie.
Très logiquement, hein, toutes les déclarations politiques, institutionnelles, encore vu François Villeroy de Gallo ce matin, le problème ne concerne pas les banques françaises, pas les banques européennes, il est aux États-Unis où les banques moyennes n'ont pas été soumises aux règles de sécurité. Question large, je commence par vous, Mathieu Plane, ça fait maintenant 10 jours qu'on est rentré dans des secousses bancaires, on peut mettre tous les arguments pour dire 2008 n'est pas 2023, 2023 n'est pas 2008, on peut donner tous les éléments d'explication pour dire que tout va bien, on ne peut pas s'empêcher depuis 10 jours de se demander si on n'est pas devant quelque chose
de similaire.
Qui n'a pas les mêmes origines, d'un côté ça peut être illiquidité ou insolvabilité, mais en tout cas, comment vous avez vécu les 10 jours et qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction?
D'abord, je pense que on voit que les retournements économiques, ils sont quand même aussi très financiers, hein. On le voit historiquement, en tout cas, et c'est là-dessus qu'on a du mal d'ailleurs à anticiper, hein, parce que comme on peut voir, les retournements sont extrêmement importants dans ces cas-là, avec énormément d'incertitudes autour de ce qui peut se produire. Tout ça pour dire quoi ? C'est que, au fond, 2008, c'était quand même assez différent de ce qu'on vit aujourd'hui.
On est bien d'accord.
Par contre, les similitudes, c'est qu'on est à un niveau de valorisation des actifs financiers qui est important. Ça, c'est une évidence. Donc, il y a toujours des risques, hein, quand vous avez des effets de valorisation élevés. Et forcément, on est sorti de plus d'une décennie quasiment de taux zéro, ou enfin, d'argent magique, si vous voulez, ou comme on pouvait l'appeler. Et donc, forcément,
C'est la facture.
Bah, c'est quelque part la facture, et c'est surtout la vitesse à laquelle on remonte les taux. Donc, vous avez quand même, on change de monde, hein, depuis la crise Covid, quand même. Il se passe quand même des chocs qui sont majeurs. Crise Covid, maintenant crise énergétique, et puis le retour de l'inflation, qu'on n'a pas connu comme ça depuis 30, 40 ans. Qui génère quand même des choses très particulières, avec une remontée des taux que personne pouvait anticiper. Et encore, j'allais dire, si on se mettait il y a un an ou deux derrière, on avait du mal à voir une telle chose.
Il y a deux ans, les banquiers centraux vous disaient que l'inflation était temporaire.
Non, le problème, c'était la question de la déflation, c'était pas l'inflation. Donc, donc comment réalimenter l'économie pour retrouver de l'inflation, recréer une inflation dans l'économie. Et donc cette remontée des taux, forcément, elle va créer des effets collatéraux et il y a des séismes, des mini-séismes. La question, c'est est-ce que ces mini-séismes vont être contrôlables ou ils vont se diffuser à l'ensemble du système bancaire? Ce que là, on est un peu rassuré, c'est que justement la crise de 2008 a servi finalement à mettre en place un certain nombre de dispositifs pour éviter des effets systémiques. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement à l'abri, mais c'est là où les banquiers centraux essayent de nous rassurer en disant, regardez, en fait, depuis Bâle III, depuis la crise de 2008, on a renforcé les fonds propres, la solvabilité, la liquidité, on a les instruments pour faire face à ça, et que donc, du coup, on aura des micro-séismes qu'on va essayer d'isoler.
C'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Les réactions ont été beaucoup, beaucoup plus rapides qu'en 2008.
Et voilà.
Parce qu'en 2008, c'est quand même un choix politique de laisser tomber une banque. Et là, le choix politique, c'est de venir les aider.
Ben là, c'est...
Bon, alors, c'est quand même très différent.
Bah, les outils existent aussi.
Pardon ?
Les outils existent parce qu'il y a eu cette expérience-là. Il y a effectivement un précédent qui est Lehman Brothers et que du coup il n'y aura plus jamais de Lehman Brothers, a priori. Et que effectivement ça avait généré une crise de liquidité sur le marché interbancaire qui avait été catastrophique avec des effets amplificateurs qu'on a connus. Donc effectivement, on fait tout pour éviter ça. C'est-à-dire que du coup il y a une forte préhension. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'éléments isolés avec des effets de transmission qu'on n'aurait pas anticipé et des effets de panique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des effets de panique, et puis il y a aussi la facilité de... Alors, je ne sais pas si ça joue massivement, mais en tout cas, la facilité de retirer très vite ses dépôts, quoi. Et c'est vrai que le risque me sent quand même plus du côté américain que du côté européen, parce qu'il y a quand même plus de contrôle, on voit, enfin c'était Villeroy de Gallo hein, qui disait ce matin,
c'est vrai,
ratio Bâle 3, on a 400 banques qui sont sous les ratios Bâle en Europe, ils sont que 13 aux États-Unis, donc en fait c'est vrai que du coup il y a un contrôle qui est quand même beaucoup plus fort. Donc la question, c'est effectivement, on aura de nouveaux chocs.
Il y aura sûrement des pépins.
Une crise de confiance qui peut s'instaurer, et puis forcément quand vous avez des dépôts qui sont importants et que votre banque va pas très bien, vous avez un risque, c'est effectivement par la diffusion de certaines informations, c'est d'aller retirer cet argent-là. Et c'est comme ça que vous créez des crises.
Quand il n'y a pas la confiance,
ouais.
Le problème, c'est que n'importe quelle banque, ouais, aussi solide soit-elle, avec autant de ratios qu'elle a, si d'un seul coup tout le monde retire son argent de la banque, elle ne peut pas résister. Faut être clair là-dessus. C'est la confiance.
Non, mais c'est évident. Donc, c'est comme si on vous disait de rembourser tout de suite votre crédit immobilier.
C'est comme SVB, même s'ils ont fait des erreurs. SVB, en fait, avait placé son argent dans des titres longs. Et s'il n'avait pas été forcé, finalement, de vendre ses obligataires, elle n'aurait pas eu de perte. Elle n'aurait pas fait de faillite.
C'est pour ça que la Banque Centrale a mis en place une procédure dans laquelle elle demande des... aujourd'hui, si la SVB venait, avec la nouvelle procédure qu'a mis en place la Banque Centrale, elle n'aurait pas ses pertes sur son portefeuille et elle aurait les liquidités immédiatement. Donc elle pourrait se refinancer directement auprès de la Banque Centrale sans avoir à faire une vente forcée obligataire et à prendre ses pertes.
Donc c'est bien le fait de les avoir vendues de manière urgente et anticipée qui explique les pertes.
Elle a matérialisé des pertes en vendant à tout prix, mais c'était des titres liquides quand même, mais elle les a vendues à tout prix, et donc elle a matérialisé des pertes, et du coup elle s'est retrouvée avec des ratios derrière de fonds propres pas suffisants pour son activité. Alors que là, ce que dit la Banque Centrale, c'est je prends en garantie vos titres et je vous donne la liquidité. Donc elle n'est pas obligée de le vendre sur le marché. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que je disais que la partie liquidité, ils ont quand même beaucoup appris. Ouais. Et vous avez vu qu'en 24 heures, 48 heures, la Fed, elle avait fait son programme, elle avait un nouveau terme, tout était en place pour éviter les effets. Donc, je dirais que c'est pas la partie liquidité qui pose problème vraiment, c'est la partie défiance. Et le gros problème qu'aujourd'hui les banques américaines et notamment les banques de taille petite et moyenne, c'est qu'elles ont des retraits énormes parce que les Américains ne leur font pas plus confiance et elles vont vers les grosses banques américaines.
Logique.
Donc le gros problème, c'est que pour l'instant, c'est pour ça que certaines petites banques américaines sont en train de demander, il faut que l'État fédéral se prononce et dise, je garantis tous les dépôts de toutes les petites banques au-delà des 250 000 dollars et elles sont prêtes à payer l'assurance, s'il faut. Hein, elles ont dit qu'elles étaient prêtes à payer parce qu'il faut calmer absolument ça et calmer les sorties de dépôts. Parce qu'encore une fois, même si votre petite banque, elle est super costaud, elle a tous les ratios réglementaires, si d'un seul coup tous les dépôts partent vers les grosses banques américaines, elles vont
mourir. C'est bien pour ça qu'on a un article dans la loi Sapin 2 qui peut mettre sous séquestre l'argent de l'assurance vie en cas de nécessité sur décision politique pendant 3 mois renouvelable. Mmh. Genre d'article, si on l'activait, c'est presque plus.
Après, vous tuez le produit. Hein.
Oui, on est d'accord.
Non, mais. Il n'y a personne qui va mettre un sou.
Bon, Olivier Babot, pour clore ce chapitre bancaire,
évidemment, tout ce qui est.
Beaucoup de choses ont été dites, je suis d'accord. Comment vous vivez la séquence? Parce qu'elle n'est probablement pas totalement terminée.
Moi, j'ai tendance à être relativement optimiste. Alors, je suis surpris que ça dure si longtemps, effectivement, là, les problèmes bancaires, mais peut-être parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées. Je n'ai pas l'impression que ça ira tellement plus loin, mais j'espère que l'avenir me donnera raison, en tout cas. Il y a le choc thermique, évidemment, auquel on s'attendait, parce que l'argent est plus rare, l'argent est plus cher, les obligations, évidemment, vont chuter, les dépôts aussi sont moins stables, et c'est évidemment le juge de paix, c'est la confiance. Et si on a...
C'est comme l'inflation, ça ne se décrète pas.
Ça ne se décrète pas. Alors, d'où les déclarations de toutes les autorités, dont on sait qu'elles peuvent avoir une fonction autoréalisatrice. C'est-à-dire que quand vous dites que tout va bien, vous récréez la confiance et en effet, tout va bien. Donc, on comprend bien que là, on est sur une glace fine de psychologie où il est très important de dire qu'il y a une intervention qui sera faite, quoi qu'il arrive, de redonner cette confiance qui fait que l'intervention ne sera pas nécessaire.
C'est le message qui est porté par tout le monde.
On a tiré les leçons quand même de 2008 et ça, c'est quand même rassurant. Et moi, j'ai tendance aussi à penser que le système bancaire européen est quand même nettement plus sérieux à plein d'égards que en tout cas
c'est le message
présente plus de garanties, quoi. C'est pas faux, c'est
pas boucle, bon, après il faut apporter la confiance et le dire,
voilà,
quoi, de toute façon.
Ouais.
Mais bon, effectivement, on a sans doute tiré des leçons de 2008. Après, attention de ne pas ressusciter le too big to fail 2008,
bah oui,
qui fait qu'il y a l'aléa morale où on sauve les banques et les banquiers en même temps,
voilà,
parce que c'est quelque chose qui passera beaucoup beaucoup moins bien.
Petit point là, il y a un exercice de stress test, je crois d'ailleurs, en ce moment au niveau européen. Alors, le dernier date un peu, 2021 je crois.
Oui,
alors stress test, pour ceux qui connaissent pas, c'est des chocs qui sont établis sur des chocs macroéconomiques, soit de croissance, soit de taux, soit de défaillance, enfin vous pouvez avoir certaines choses pour voir la solidité des banques. Et une étude montrait que, je crois que sur la hausse des taux, les risques de perte en fonds propres pour l'Europe, c'était 2%. C'était beaucoup moins qu'aux États-Unis et encore beaucoup moins qu'au Japon. Donc en fait, effectivement, si vous prenez l'ensemble des grandes zones mondiales, d'économies développées, en fait l'Europe était la plus solide, en tout cas les banques européennes étaient les plus solides à une hausse de taux, et donc ça restait assez absorbable. Et donc c'est vrai que tout va reposer aujourd'hui sur la gestion politique, c'est-à-dire le message qui sont envoyés, rassurer les instruments qu'on met en place, et savoir si effectivement ça calme tout ça, et où est-ce que finalement on a toujours des défiances possibles dans certains coins, avec par exemple même Crédit Suisse. Est-ce que c'était si anticipable que ça? Je sais pas, suite à la déclaration effectivement du fonds saoudien de ne pas recapitaliser, qui a été une erreur à mon avis de communication, mais qui pouvait s'attendre à une telle défiance suite à tout ça, quoi.
Après, le risque aujourd'hui, c'est que ça aille pas sur Deutsche Bank, les banques italiennes. Donc le gros problème aujourd'hui, c'est les effets dominos, quoi. Toujours. Et encore une fois, c'est plus un problème de confiance, parce que Crédit Suisse, elle aurait pu encore vivre pendant 2-3 ans sans problème si les gens avaient encore eu confiance en elle. Donc c'est le côté un peu autorisateur.
Elle répondait aux ratios. Elle répondait aux ratios.
Elle répondait aux ratios. Mais c'est
voilà, donc il faut faire attention. C'est que ces ratios, si on regarde ces ratios prudentiels, normalement, on se dit.
Alors par contre, la différence quand même de 2008, c'est qu'il n'y a pas. Ce qui avait fait vraiment beaucoup de mal en 2008, c'est qu'il y avait eu des titrisations de prêts.
Bien sûr.
Douteux et qui avait été un peu dissimulé dans plein de produits. Du coup, tous les investisseurs ont dit, du jour au lendemain, je retire tous les produits, je ne peux rien prendre. Donc là, on sait que quand même, déjà, d'une part, on sait qu'on a appris, qu'on a des banques centrales qui peuvent apporter liquidité, donc il n'y aura pas d'un seul coup, vous n'avez pas un risque sur votre dépôt auprès de votre grande banque, faut quand même le dire. Là, aujourd'hui, il y a quand même cet aspect-là. Et puis, de l'autre, on va dire, ça se limite quand même à certaines banques, à certains maillons faibles. Le vrai risque aujourd'hui aux États-Unis, c'est les faillites en cascade des petites banques. Là, il y a quand même un vrai risque de défiance des Américains vis-à-vis de leur banque.
Je me mets à la place d'un Américain qui est dans une banque qui a à peu près le profil de SVB. Il préfère déménager chez Bank of America.
Risque et ça sera très difficile à maîtriser. À part, si je vous disais, si l'État américain dit, je vous garantis tout. Là, ça clôturera maintenant. Voilà, c'est un coup aussi. C'est encore une fois le contribuable qui vient sauver les banques. Donc, c'est politiquement difficile à supporter. Ouais. Et puis derrière, sur l'Europe, bien sûr qu'il y a des solidités, mais attention, parce que encore une fois, il y a des banques qui sont toujours dans le communisme animateur. Je pense à Deutsche Bank qui est depuis des années sur les marchés considéré comme un maillon faible, et c'est une banque systémique. Donc il peut y avoir encore des effets contagion. L'histoire n'est pas finie encore. Il va y avoir encore du chahut.
Bon, il y a un auditeur qui me dit la grosse différence avec 2008, c'est que cette fois les banquiers ne seront pas sauvés, mais la banque oui. Alors, c'est ce qu'on répète un peu. Enfin, ce que je répète un peu en boucle. D'ailleurs, depuis cette crise, il fallait sauver les banques, mais pas les banquiers. On va voir comment effectivement les choses vont être gérées. Bon, je retiens en tout cas le. Oui, pardon, Mathieu.
Non. Après, la question, c'est est-ce que ça va modifier la politique monétaire ou pas. Quand même, cette affaire, c'est un point important. C'est-à-dire,
vous en pensez quoi là?
C'est le moment. On va voir ce qui va se passer du côté américain. Oui. Mais moi, je pense qu'il va y avoir quand même une. Enfin, en tout cas, c'était compliqué parce que ce qu'a fait la BCE quelque part, ne pas continuer dans sa hausse des taux qui était annoncée, c'était montrer que finalement envoyer un signal que les choses vont pas si bien que ça, voilà. Et que justement elle réoriente sa politique justement pour garantir le système plutôt que l'inflation. Du côté américain, je pense que c'est plus compliqué hein, quand même une fois de plus, avec notamment ces histoires de petites banques qui sont pas systémiques. Le risque effectivement. Quand vous êtes américain, vous avez plus de 250 000 dollars en dépôt dans des petites banques, de les retirer. Donc je pense que cette gestion-là va être plus importante. Et aux États-Unis, à mon avis, la réserve fédérale ne remontera pas ses taux de 0,5. Il y a peu de chances. On verra.
0,5, non, de 25 points de base.
Mais de 25,
tout,
oui.
Toute la question, c'est le discours qu'ils vont faire après. Oui. Et puis, ils ont un rapport qu'ils vont nous publier, qui est le CEP, qui est le rapport dans lequel ils nous donnent, entre guillemets, le taux terminal. Ils vont nous donner un peu vers quoi étant les taux. Et ça, elle n'a pas cette flexibilité en termes de communication qu'a la BCE. Ouais. La BCE, elle a pu dire, on sera data dépendante, ouais. Et elle est restée très floue vers où elle va. Ouais. Alors que la Banque Centrale Américaine va devoir nous le donner dans ce rapport.
On va évoquer les retraites dans un instant. Le problème, c'est que lutter contre l'inflation et garantir en même temps la stabilité financière, qui est un peu la question du moment, c'est un peu contradictoire et c'est difficile de faire les deux. Lionel m'écrit, on ne va pas encore privatiser les bénéfices et nationaliser les pertes bancaires, franchement. C'est un sujet. Bon, on marque une pause. On parle des retraites dans un instant, et puis on dira aussi de ChatGPT-4.
Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, qui a publié « La tyrannie du divertissement ». Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Buchet-Chastel. C'est pendant les loisirs que se creusent les inégalités.
Absolument, c'est la thèse du livre. On ne s'en rend pas compte parce qu'autrefois, c'était plutôt dans le travail que faisaient les inégalités. Aujourd'hui, on vit beaucoup plus dans le loisir. Le travail, c'est 15% de notre vie, hein, éveillé hein, à la fin de la vie aujourd'hui. C'est quand même pas grand-chose. Et donc, les inégalités, elles se font dans le loisir. Voilà, on vous demande des comptes sur ce que vous faites dans votre temps libre. Et ça, on ne l'a pas dit à tout le monde.
Christian Parizeau, économiste conseiller auprès d'Aurel BGC. Et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Les enjeux du jour, Olivier Babeau, autour de la réforme des retraites. On connaîtra, alors il y aura un vote. Et évidemment, voter une motion de censure, c'est pas comme voter en direct un texte de loi. Donc, d'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que tous les grands gestionnaires que j'ai pu rencontrer, passer les frontières françaises, ils savent pas ce que ça veut dire 49.3. Et donc, il a fallu commencer à envoyer des infos pour leur expliquer que pour eux, il n'y a pas eu de vote, donc la réforme n'est pas passée. Ouais. Et que le 49.3, c'est quand même plutôt que la réforme est passée. Et donc, certains commençaient à s'inquiéter. Quoi, la réforme des retraites ne passe pas? Bon, voilà.
Mais c'est comme ça.
Oui, non. Mais... Donc, voilà. Donc, on aura le vote au Parlement, je crois, vers 16h. Comment vous regardez cette journée et la suite?
Alors, c'est évidemment une journée importante. Quand même, l'hypothèse qui tient à la corde, c'est que la motion de censure ne soit pas adoptée et que la loi passe, oui. Naturellement. Aura-t-elle un problème avec le Conseil constitutionnel? En tout cas, pas un problème fondamental sur l'âge. Il y a peut-être certaines mesures qui pourraient être toquées, mais ça ne remettra pas en cause l'ensemble de la loi.
Il pourrait y avoir un problème parce qu'on pourrait considérer qu'il y a des cavaliers législatifs.
Voilà. Ce qui, entre nous, c'est pas la première fois qu'il y a des cavaliers. Il y en a partout, ouais. Tout le temps. Oui. C'est la question, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel siffle un peu la fin en disant bon, allez, ça va pas. Mais vraisemblablement, ça ne va pas remettre en cause profondément.
Qu'il ait été discrètement consulté avant, quand même, le Conseil constitutionnel.
Peut-être. Maintenant, ça dépend de son humeur, c'est compliqué.
Oui, c'est vrai.
Ce moment-là. Mais la vraie inconnue, d'abord, c'est la réaction des gens, la réaction sociale. Est-ce qu'il y a une forme d'embrasement, une gilet jaunisation dans les jours qui viennent, ou au contraire, ça va redescendre. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce phénomène, puisqu'on parlait tout à l'heure des marchés financiers, c'est qu'il y a quand même un secret de Polichinelle. Est-ce un secret d'ailleurs ? Non, c'est probablement quelque chose qui a été mal expliqué et qui bizarrement fait scandale chez certains. C'est le fait que quand vous êtes un grand débiteur, vous vivez aux dépens de ceux qui vous donnent. Or, la France doit 3 000 milliards de dettes. Elle va toutes les semaines emprunter 6 000 milliards. Elle a des comptes publics qui sont exsangues. On a 57% de dépenses en pourcentage de PIB de dépenses publiques. C'est 46% de prélèvements obligatoires. Ce que nous coûte la dette chaque année, c'est entre 50 et 60 milliards cette année, le coût de la dette.
C'était 31 en 2021.
Voilà, c'était formidable. 57. Le problème, justement, c'est que là encore, on a le choc thermique. Que cette réforme de retraite, si elle a été faite par Macron, c'est probablement pour une raison finalement assez simple. C'est le moment, l'endroit où on peut trouver le plus facilement possible des économies rapides pour un truc qui est autour de 350 milliards par an. C'est la plus grosse politique finalement de l'État. C'est les plus gros transferts. C'est là où on se dit, tiens, on va pouvoir non seulement ne pas avoir les 30 milliards qu'on dépense chaque année, vous savez, pour le trou sur les retraites du public, qu'on n'avait pas vu jusque-là, mais on arrive à les identifier, et puis les déficits qui arrivent. Donc voilà, il y a quelques dizaines de milliards à économiser. C'est pas certain que la réforme finisse par nous permettre de les économiser, mais c'était bien ça l'idée. Le risque, si jamais ça ne passe pas...
C'est la réforme qui permet de faire des grosses économies d'un coup et de manière... annuel.
Exactement. Et puis, plus symboliquement, c'est la réforme qui permet de dire, regardez, on tient encore nos troupes, on tient le pays, les comptes, on arrive à... Alors certes, on est mauvais, mais on est sur une bonne trajectoire. Donc la signature de la France, vous pouvez encore avoir confiance en elle. Et donc, l'idée est que, quand même, ça permettrait de détendre ou de ne pas faire augmenter, évidemment, notre taux d'endettement. C'est 1% d'endettement en plus. C'est 3 milliards tout de suite de coûts pour nous. Et donc, assez rapidement, ça devient assez dur. Voilà, donc, l'hypothèse, et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que même les gens qui sont contre disent, mais regardez, c'est pour faire plaisir au marché financier. Bah oui, mais enfin, si on ne devait pas 3 000 milliards au marché financier, enfin, un peu moins en réalité, parce qu'il y en a effectivement une partie qui est à nous, une partie qui est aux banques centrales. Mais enfin, en gros, si on n'avait pas autant d'argent, si on n'était pas obligé tout le temps, en permanence, d'aller leur emprunter, bah c'est sûr, on serait beaucoup plus détendu et on pourrait dire, bah sur les retraites, c'est déficitaire, mais on s'en fiche, bah on va budgétiser ça, on va mettre ça. Mais non, malheureusement, c'est pas possible à cause de l'argent. Voilà, c'est le grand secret et c'est ce qui, paradoxalement, met le feu encore plus aux poudres parce que c'est désagréable pour un pays de se rendre compte qu'il est dépendant de l'extérieur, mais c'est le cas.
Voilà. Vous considérez, Mathieu Plane, que le président de la République a eu raison de parler, de lier la réforme des retraites avec la signature française ou que c'était une prise de position politique dont il aurait peut-être pu faire l'économie, en fait. Même si on a en tête le fait qu'il y a un lien entre la crédibilité, soutenabilité de la dette et la dynamique de la dépense publique, et qu'une réforme des retraites, c'est considéré comme un bon signe par ceux qui nous prêtent de l'argent.
Alors, évidemment que ça peut être considéré comme un bon signe. Après, de dire qu'on a l'épée de Damoclès des marchés sur la tête, je relativiserai. Parce qu'effectivement, on est sur un horizon à 2030, sur un gain de 10 milliards. Structurel.
On augmente la croissance potentielle.
Mais par contre, on augmente la croissance potentielle. Mais à court terme, ça ne fait pas d'économie. Même on a même des dépenses supplémentaires. Sinon, après, si vraiment on avait un problème, il faudrait augmenter les ressources fiscales. C'est comme ça qu'on peut gagner très vite de l'argent. Donc bon, c'est plutôt la trajectoire de long terme. Je ne suis pas sûr que les marchés regardent cette trajectoire de long terme ou le croissance potentielle en détail. Ils font leur compte à 2030. Je pense qu'ils attendent peut-être des réformes de la France. Le problème, c'est qu'elle a été assez malmenée, cette réforme, pour moi. C'est pas tellement l'idée de dire qu'il faut pas faire de réforme, il y avait des besoins de financement qui étaient assez clairs et assez nets. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de dialogue dans ce pays. Enfin, on le voit, on est face à des blocs qui se confrontent de façon assez forte. Il y a la question de savoir est-ce qu'il fallait privilégier la durée de cotisation, le report de l'âge légal. Le report de l'âge légal fait des économies rapides, mais on voit que c'est assez injuste.
C'est pour ça que c'est le problème. C'est
bien pour ça qu'on a des économies. Les économies sur des actifs qu'on commence à travailler plus jeunes et qui sont pas dans les carrières longues. On va leur demander d'aller plus loin. Alors qu'effectivement, d'autres vont pouvoir prendre leur retraite à 64 ans sans avoir les durées de cotisation. Donc on a créé une espèce d'usine à gaz aussi, quand même, qui est compliquée. On aurait pu imaginer des décotes un peu différentes. Enfin bon, je pense qu'on aurait pu faire...
Je me demande si on pouvait éviter...
On n'a pas parlé du tout de la répartition intergénérationnelle de tout ça. On a bien revalorisé les pensions de 5% l'année dernière. Enfin, Je veux dire, on pouvait mettre sur la table toutes ces cartes en disant, voilà, on a besoin de financement important, il va falloir travailler certainement plus longtemps tout au long de la vie, mais comment on répartit correctement cet effort? Je pense que ce discours en disant, c'est pour votre bien, c'est de gauche, c'est des mesures sociales, ça n'a pas marché. Et les gens ont bien compris que c'était pas OK. Et donc, si vous voulez, vous risquez aujourd'hui, moi je pense que les marchés ou les étrangers vont être inquiets du climat social en France. Du climat social. Je veux dire, on n'est pas capable aujourd'hui de faire une réforme sans que ça finisse très mal. Et donc, vous imaginez bien, c'est quel est l'horizon de tout ça? Ça veut dire quoi? C'est quoi les réformes à venir pour la suite? Ça veut dire quoi l'élection de 2027? Quelle trace ça va laisser politiquement tout ça? C'est pas juste une réforme paramétrique. On a des conséquences politiques à tout ça, et c'est plutôt ça qui m'inquiète, y compris d'ailleurs pour les investisseurs étrangers ou les marchés.
Je me demande si une réforme des retraites peut se passer sans douleur. Si, parce qu'on dit toujours, ah, ça a été mal expliqué, ça a été mal abordé, il aurait fallu faire différemment, parler aux gens différemment.
Bah, vous voyez, en 2019.
Regardez, si j'avais abordé le sujet uniquement.
En 2019, moi j'avais trouvé ça pas mal, hein. C'est-à-dire que la réforme, d'abord je préférais la première réforme, hein, qui était proposée, qui
avait plus d'ambition. Ah, la réforme systémique.
Une réforme structurelle avec
là,
un régime universel.
Ils s'en emmêlaient les pinceaux.
Ils s'en emmêlaient les pinceaux, et après il y avait eu.
Il était deux doigts d'être voté, c'est le Covid.
À partir du moment où on avait ajouté au système à points l'histoire de l'âge de financement, pivot, là.
L'âge pivot qui était, c'était Édouard Philippe qui voulait 12 milliards. Il avait créé une conférence de financement en disant, bon, si vous voulez pas de l'âge pivot, trouvez-moi 12 milliards. Mais il y avait eu quand même cette, ce n'est pas la conférence de financement qui a été, pas avec les syndicats. Justement, pour dire, on fait un peu de durée de cotisation, il faut voir quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer. Il aurait fallu ouvrir quand même ce chantier de qui porte l'effort aussi, de tout ça. Je pense que les Français peuvent entendre qu'il va falloir travailler plus longtemps, qu'effectivement l'espérance de vie augmente, qu'il y a
un effet... J'ai beaucoup d'auditeurs qui me disent, mais pourquoi est-ce que les retraités riches n'ont pas été mis à contribution?
Non, mais je veux dire, tout ça n'a pas été discuté. Donc, et je pense que c'est quand même un problème. Après 3 ans de choc économique quand même majeur, on a quand même une crise Covid... énorme, une crise énergétique aujourd'hui, et puis en même temps Bruno Le Maire dit qu'il y a des besoins d'investissement dans la transition énergétique entre 50 et 60 milliards par an, et on est en train de se batailler sur cette... Je pense qu'il y a un petit souci là-dessus, sur les enjeux politiques et l'aboutissement de tout ça. Moi, ça m'inquiète un peu, en fait.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est justement ce dernier point, moi, qui m'inquiète. C'est le fait qu'on va avoir des dépenses publiques qui vont énormément progresser dans tous les pays du monde.
On le sait.
Que ça soit pour la dépense, la transition énergétique. Et le problème, c'est que la France est très mal placée. Pourquoi? Parce que la France a déjà un taux de prélèvement très élevé. Donc, on peut toujours monter plus haut. Mais enfin, à un moment donné, on se dit que c'est pas soutenable. On a eu les gilets jaunes qui nous ont montré que finalement on pouvait pas non plus aller dans la fiscalité à des niveaux déraisonnables, et puis après ça atteint la compétitivité du pays, tout ça, enfin, et ça baisse les recettes fiscales, donc on peut pas monter dans les taux de prélèvement, et donc le seul levier qu'avait aujourd'hui le gouvernement pour assurer finalement les dépenses à venir, c'était d'augmenter la croissance potentielle. Et moi je pense que je conçois cette réforme de retraite derrière, c'était plutôt l'idée qu'il fallait faire passer, qui était de dire on sait pas comment on va financer les futures dépenses de l'État. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous dit qu'il y a plein d'économies à faire, mais on s'aperçoit qu'aucun gouvernement y arrive. On nous dit qu'il y a des économies à faire dans l'éducation. Ah ben non, il ne faut pas y toucher. Dans la défense, ce n'est pas le moment. La partie dette, on ne maîtrise pas parce que c'est les taux d'intérêt auxquels on emprunte et puis ça peut exploser ou revenir en arrière, mais on ne sait pas du tout, on n'a pas de visibilité. Alors trouvez-moi un poste dans lequel on a beaucoup d'économies. Comme on n'a pas de poste dans lequel on a beaucoup d'économies, le seul moyen, c'est de faire augmenter la base fiscale. Et comment on fait augmenter la base fiscale? En ayant plus de croissance et en faisant travailler les gens plus longtemps et de manière plus importante. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on va financer demain toutes les dépenses qu'on a.
Si on devait refaire le film, je ne sais pas quel serait le message principal qu'il faudrait mettre vis-à-vis de cette réforme des retraites. Le côté intergénérationnel, le côté croissance potentielle pour financer les dépenses de demain incontournables, le côté sauvegarde d'un système par partition, ce qui a été le principal message porté par le gouvernement. Je ne sais pas s'il y a un message meilleur qu'un autre.
Non, bah qui est mieux reçu après, qu'un ils autre. Sont pas. Je pense que la communication a été assez mauvaise parce que, effectivement, initialement, il y avait cette idée de. Et Macron l'avait un peu dit, dire en fait, on va faire cette réforme pour rééquilibrer la gestion de retraite, mais aussi rapporter de l'argent pour financer d'autres choses. Et ça, ça a été mal interprété ou mal vu. Et donc, ce qui était derrière le discours, en fait, il faut augmenter la base fiscale avec la croissance potentielle, qui est un peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gains de productivité faibles. Et donc, si vous voulez à long terme augmenter l'offre de travail, il faudra travailler plus longtemps. Gros.
Vous avez vu quand même que Bruno Le Maire s'est quasiment engagé à réduire de 3 points la dépense publique. Enfin, en tout cas, à passer le poids de la dépense publique de 57 à 54 en 2024.
En 2024.
Ah, en 2024.
Ah oui.
Il a dit qu'il voulait qu'on soit à 54% en 2024 avec plusieurs milliards d'économies.
Alors, est-ce qu'il anticipe un arrêt du, ouais, des aides anti-inflation,
c'est peut-être. Les mesures d'urgence qui s'arrêtent quand même.
Il est possible que ce soit
58 milliards cette année quand même.
Ouais, ouais, il y a pratiquement 3 points, il y a un peu moins de 3 points de PIB encore, voilà, les mesures d'urgence. En fait, on va avoir une bonne surprise, hein, honnêtement, cette année en 2022 sur le déficit, c'est qu'il va être certainement moins élevé que prévu. On sera peut-être plutôt à 4,5 qu'à 5.
2023.
Non, 22, 22. Oui. Non, je reviens sur.
Ah oui.
Non, c'est 22. On ne connaît pas le déficit. Oui. La prévision était à 5.
Oui,
le gouvernement était
à 5.
Et on serait plutôt à 4,5. Et dans ces 4,5, il y a encore quand même beaucoup de mesures d'urgence. Pourquoi, en fait, le déficit a été plus bas? C'est que, en réalité, ce qu'on appelle les élasticités, les recettes fiscales ont été très dynamiques. Et avec le retour de l'inflation, ça génère aussi des recettes fiscales.
Et oui.
Et donc, il y a quand même des effets comme ça. Donc, après, c'est quel est l'objectif de déficit à 2027? Est-ce que c'est 3%? Comment on l'atteint? Effectivement, d'ici 2027, sachant qu'il va y avoir l'épuisement d'un certain nombre de mesures. Mais la question est quand même fondamentale parce que ces mesures, notamment encore en 2023, anti-inflation, énergétique, c'est comment elles sont poursuivies sur 2024-2025. Est-ce qu'on va retrouver un scénario normal? C'est quelle est d'ailleurs la politique qu'on peut avoir? Quelle va être la trajectoire sur l'énergie? Et est-ce qu'on va retirer les boucliers et tout ça? Parce que ça représente beaucoup d'argent. Voilà, donc en fait, effectivement, le point de bascule, c'est plutôt 2024 sur la réduction de la dépense.
Oui, en fait, ça peut être de la baisse de dépenses fiscales aussi.
Mais oui.
Il y a un petit scandale à ma connaissance. Sur l'IFI, les 1,3 million de déclencheurs n'ont pas été revalorisés avec l'inflation. Oui. Hein, donc, on dit toujours que l'inflation, c'est un impôt non voté. Ça permet tranquillement de faire rentrer les gens dans l'IFI et en faisant bouillir la grenouille tranquillement sans qu'elle s'en aperçoive. Parce que tous les prix augmentent.
Sûr,
mais si vous laissez 1,3 million, si vous revalorisez pas le truc,
c'est comme si on n'avait pas revalorisé le barème de l'IR. Il y a des gens qui rentraient dans l'IR.
Exactement, sauf que pour l'IFI, dernière nouvelle, je crois qu'on l'a pas fait. Mais bon, sur les dépenses, n'oublions pas, il y a la dépendance aussi. On n'a pas le premier sou, on sait pas comment on va. C'est monstrueux, le mur des dépenses qui nous arrive dessus.
Ah, mais c'est
abyssal. Et alors, c'est vrai que c'est paradoxal, cette réforme des retraites qui était là pour montrer la capacité réformatrice de la France, en fait, elle nous revient en backlash parce que elle va plutôt peut-être inquiéter les gens qui pourraient nous prêter en se disant oh là là, finalement, ils sont quand même mal, ils arrivent pas du tout à trouver les économie à aucun moment. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le problème, c'est qu'on n'est pas parti d'un diagnostic partagé sur le fait qu'il y a quand même un problème. Ouais. Alors qu'on aurait peut-être pu arriver à s'accorder sur le fait, bon, il y a un déséquilibre démographique, il y a des injustices. C'était intéressant. Poser la question aussi de l'opposition entre la partie qui est contributive dans le système et la partie qui est une partie de solidarité, de redistribution. Parce que quand on dit qu'il faut baisser les grandes retraites, les retraites hautes, c'est des mecs qui ont vachement cotisé aussi. À un moment donné, on vous dit, attention, c'est pas des charges sociales, nous disent les syndicats. Ce sont, n'est-ce pas,
des salaires différés.
C'est des salaires différés, mais enfin, si ça devient capé et si à la fin vous n'avez absolument pas ce que vous aviez mis au départ, c'est pas des salaires différés, c'est de l'impôt avec de la redistribution complète. Le problème du système, c'est qu'il mêle complètement l'aspect contributif qui est que tu mets derrière, de côté pour tes vieux jours, et c'est le système qui met de côté pour tes vieux jours, même si on sait que c'est la répartition en réalité, que tu mets rien de côté. Mais enfin, dans l'esprit, c'est celui-là, c'est que tu as gagné un droit à avoir cet argent que tu as mis de côté.
Certains pensent qu'ils mettent de l'argent de côté tous les mois. J'en ai entendu dans les cortèges à projet disent ce que je mets tous les mois de côté, je veux qu'on me le restitue quand je suis à la retraite.
C'est quand même 27% de ton salaire total en vieillesse.
Oui, c'est énorme.
Alors donc si après c'est capé, bon en fait s'il n'y a que de la solidarité, c'est-à-dire que tout est redistribué, c'est pas le même système. Je veux dire, on est vraiment dans un système d'une autre.
Ça n'a pas été du tout évoqué ça.
On l'a jamais évoqué parce qu'à aucun moment on a dit bon qu'est-ce que les gens mettent pendant une carrière et qu'est-ce qu'ils ont, quel est le taux de retour.
Oui, oui.
Le taux de retour, c'est le truc dont personne n'a jamais parlé. Alors ce que disent les projections du corps, c'est qu'à priori à partir de la génération 90, comme on sait, les gens qui sont nés en 90, donc ils sont pas encore à la retraite, eh ben on aura moins de 100% du taux de retour, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins en pension qu'ils n'auront eu en cotisation. Ça, du point de vue de l'iniquité intergénérationnelle, je trouve que c'est complètement explosif et on n'a même pas réussi à avoir ce débat là c'est vraiment triste après en avoir parlé pendant 6 mois.
J'aimerais qu'on réponde à une réaction de Romain qui dit que parmi les explications du déficit, il y a la baisse des impôts.
Ah oui.
On peut considérer que le fait d'avoir baissé les impôts participe au déficit, parce que quelquefois, quand vous baissez les impôts, vous créez une dynamique de recettes.
Ah oui, c'est le cas pour les dividendes, par exemple.
Donc,
c'est le cas pour les dividendes. Le vrai problème, Mathieu, ce débat est compliqué, mais on a toujours un problème de compétitivité, de réindustrialisation en France, donc et des niveaux fiscaux. Moi, je crois, quand on regarde depuis 2013, il y a eu des efforts qui ont été majeurs pour baisser la fiscalité d'entreprise. Si on prend le CICE, le pacte de responsabilité, la baisse des impôts sur la production, la baisse de l'IS, on est à entre 60 et 70 milliards par an aujourd'hui. Donc, c'est quand même un effort majeur. Ça a permis certainement de redonner une bouffée d'oxygène aux entreprises. La vraie problématique, moi, derrière, c'est que ça n'a pas eu les effets forcément attendus sur les effets de compétitivité et de réindustrialisation. C'est-à-dire que, est-ce que si on n'avait pas fait ça, ça serait bien certainement pire. Mais aujourd'hui, ces montants-là qui ont été accordés dans les transferts, effectivement, qui ne sont pas forcément financés, hein, et c'est peut-être le problème. Et d'ailleurs, quand Bruno Le Maire décide de baisser les impôts sur la production dans le plan de relance de 10 milliards, à aucun moment, il a dit comment on finance cette baisse de 10 milliards.
C'est ce que lui reproche François Villeroy de Gallo, d'ailleurs.
D'avoir voilà, baisse et donc là, on a poursuivi, on fait encore 10 milliards de baisse d'impôts sur la production. Moi, je ne suis pas contre, parce que c'est plutôt l'industrie qui va en bénéficier, etc. Mais à un moment, on se pose la question du financement de tout ça et de l'efficacité de tout ça. Cette politique de l'offre, elle a eu certains résultats, mais on voit, en termes de compétitivité et de réindustrialisation, aujourd'hui, on a un vrai problème qui est qu'on n'est pas que dans un problème de compétitivité fiscale. Il y a aussi tout ce qui va être le hors-coût, c'est-à-dire autour des politiques industrielles, la recherche et le développement, l'innovation, les gains de productivité qu'on peut générer. Tout ça, aujourd'hui, est un peu absent du débat et on a fait des politiques, on s'est quand même beaucoup orienté sur des politiques fiscales, sans peut-être regarder aujourd'hui comment on pouvait faire en sorte d'améliorer notre croissance potentielle uniquement, en passant uniquement par des baisses de fiscalité. C'est-à-dire que cette baisse de fiscalité, forcément, on la retrouve dans les déficits et je crois que c'est pas à la remettre en question, mais savoir en fait son efficacité est quand même une question importante, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez réduire les déficits, à un moment, il va falloir le payer, quoi. C'est-à-dire, y compris d'ailleurs quand on fait des projections à long terme, la question de la croissance potentielle est déterminante. Aujourd'hui, on dit il faut travailler plus parce que ça augmentait la politique, enfin le nombre d'heures travaillées, donc ça augmente la croissance potentielle. Mais on a un autre problème, c'est qu'on a des gains de productivité qui sont très faibles, voire qui sont négatifs en ce moment. C'est-à-dire que depuis 3 ans, notre productivité a baissé. Donc il y a des questions qu'il faut se poser aussi sur l'innovation, la compétitivité, les gains de productivité qu'on est capable de générer. Et j'allais dire, cette baisse de fiscalité a pas permis de répondre à ce problème-là. Alors, peut-être qu'on serait dans une situation encore pire.
D'accord.
Mais voilà, il y a quand même cette question.
Certains pensent qu'on n'échappera pas à la casse fiscalité compte tenu des dépenses que nous avons à financer, car la dette est à bout de souffle.
Bah, moi, je crois que ça va être compliqué. Hein, mais... après, c'est qui finance.
Après, on parle de ChatGPT. Allez-y, un mot.
Juste un mot pour dire que le gros problème, c'est que dès qu'on change la fiscalité, on affecte la base fiscale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas neutre. C'est-à-dire que vous baissez les impôts, vous les augmentez, ça va jouer énormément sur la base fiscale que derrière, parce que les agents, ils réagissent à ça. Et je pense qu'on sous-estime aussi un coût très important, c'est les changements de fiscalité. C'est-à-dire qu'on a eu tellement de changements. Ça déstabilise l'économie. Faut le dire le mot, ça déstabilise l'économie. Parce qu'à un moment donné, les agents, ils vont réagir. Vous fiscalisez l'immobilier, vous défiscalisez l'étoile de maître, et ben, je peux vous dire, tout de suite, ça a un impact très fort sur le patrimoine des agents. Et donc, derrière, ça a des impacts économiques sur les secteurs d'activité.
Plein d'exemples hyper
et vous avez votre base fiscale qui va évoluer et vous n'avez pas la rentabilité ou vous allez avoir des surprises sur vos rentabilités. Et donc, le gros problème, c'est le gros problème aujourd'hui que l'on a, c'est les changements de fiscalité qui perturbent énormément l'économie. Et ça, c'est un vrai coup parce qu'aujourd'hui, vous dites à une entreprise, je vous fais un impôt de production. Bon, c'est pas forcément bien, on va dire que c'est l'impôt le plus stupide du monde, mais elle va le prendre en compte dans son business model, elle va le prendre en compte. Demain, vous lui augmentez, vous lui baissez, ça lui met en... Alors, la baisse est toujours mieux venue, mais ouais. Vous lui augmentez, ça peut complètement remettre en cause sa rentabilité. Et donc ça, c'est un vrai problème pour l'investissement, pour se projeter. Et donc, je trouve que c'est ça surtout que devraient faire attention les politiques, c'est donner une visibilité sur ce qu'ils font au niveau fiscal.
Il y a eu un exemple très très intéressant, un cas pratique de ce que vous décrivez sous François Hollande, Christian Ecker, qui avait généralement tendance à imposer des décisions qui ne sont pas tellement des décisions pro-business dans les différents textes de loi de finances, avait considérablement réduit la subvention par heure travaillée dans les emplois à domicile. On était tombé à moins de... Et ben qu'est-ce qui s'est passé? Travail au noir a commencé à exploser. Ils ont vu le travail au noir qui prenait une telle dimension. Donc là, pour le coup, effectivement, on subventionne moins, mais alors il n'y a plus de cotisation du tout. Il n'y a plus de CA indifféré, là, quand c'est... Et ben du coup, ils ont remis le niveau de subvention par heure travaillée au niveau ancien et le travail au noir a baissé.
Mais il y a des effets comme ça qui peuvent être importants. Et donc, sur les politiques fiscales, il faut donner de la visibilité. Là, on a fait beaucoup de baisses de fiscalité qui ont été quand même maintenues, hein. Mais effectivement, on comprend pas bien la trajectoire de long terme tout ça, et puis du financement en face. Et donc, c'est vrai que on dit il va falloir réduire la dépense publique, mais on voit bien que la dépense publique, il y a des besoins, on les a dit, hein, sur la dépense, que ce soit la santé, l'éducation, la justice, la défense, qui sont importants. Donc, il va falloir trouver un moment les leviers. Et c'est vrai que la question des ressources fiscales va se poser, parce qu'à court terme, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'augmenter la fiscalité que réduire les dépenses.
Il y a cet auditeur qui m'écrit « Réduisez le millefeuille et supprimez la moitié des échelons des fonctionnaires dans la fonction d'État et vous allez générer des milliards d'économies. » ChatGPT fort, Monsieur Olivier Babot, on vous prenez la version 1 et la version 4, c'est plus le même monde. Là, la version 4, elle a été capable de réduire, de réaliser avec succès en 10 secondes un problème d'entrée à Polytechnique.
Oui, absolument.
En regardant le sujet avec une caméra.
Alors que la version 3, elle butait sur un problème de maths de CM2. Hein. Vous voyez l'exponentielle sur laquelle on est. Alors, on parlait de mur de la dépense, mais il y a un mur de l'intelligence artificielle qui arrive. Donc, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, parce que c'est ça, ChatGPT, c'est pas le seul outil, il y en aura plein, en fait. C'est en train de se développer à une vitesse, mais on parle plus en mois, on parle en semaines, peut-être même en jours, en fait, tellement les progrès sont rapides. Ce truc-là va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie, sur la façon de travailler, sur la production d'intelligence dont le coût marginal va tomber à zéro et qui va avoir un effet aussi sur les compétences qui vont être nécessaires dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est complètement incroyable, que ça ne fasse pas la une de tous les médias, de tous les journaux, qu'on ne soit pas là en permanence à se dire mais qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est vraiment demain, à la limite, la réforme des retraites, c'est un truc à long terme, mais là c'est un truc à très court terme. On parle de quelque chose qui va changer le monde dans les 2, 3 ans, 4 ans qui viennent. C'est-à-dire avant la fin du quinquennat, c'est absurde et incompréhensible que ça ne soit pas aujourd'hui, qu'il n'y ait pas une cellule de crise en permanence à l'Elysée pour essayer de dire mais qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à s'adapter, parce que ce truc-là est un tsunami qui arrive en plus avec une violence qui est absolument incroyable. Je crois que c'est Édouard Tétrault dans les Échos, je crois, de ce matin, qui dit ChatGPT c'est Gutenberg plus la bombe atomique. Voilà. Oui, parce que en termes de rapidité de puissance, et Gutenberg en termes aussi de démocratisation du savoir, mais avec des effets qui sont extrêmement rapides. En fait, c'est inouï. Je veux dire, c'est pas un gadget, quoi. Il faut bien comprendre que le truc est d'une puissance absolument incroyable. Jusque-là, vous alliez sur Google, vous alliez donner une question, vous aviez 6000, une liste de 6000 sites classés, certes, par ordre d'importance. Vous alliez vous-même chercher la réponse. Aujourd'hui, il va lui-même faire la réponse. Il est aussi capable de faire vraiment des choses de créativité avec de l'image, en créant de l'image, en créant des choses animées. Il y a le text-to-text, le text-to-picture, le text-to-motion. Et tout ça est en train de révolutionner un nombre de métiers extraordinaires. Il est capable d'écrire des contrats, par exemple, exactement comme tu veux le faire. Est-ce que les notaires, les avocats n'ont pas aujourd'hui à regarder ça de très près ? Tous les gens dans l'entreprise avec qui on discute aujourd'hui, ils commencent déjà à l'utiliser. Hein, et pas seulement pour faire l'exposé du petit à l'école, ce qui, entre parenthèses, est aussi très pratique. Mais il y a un nombre d'utilisations. Il y a les programmes informatiques, etc. Ça accélère, ça empouvoir, comme on dit, le travail de beaucoup de gens, ça pourrait aussi le remplacer.
On raconte qu'on a demandé à ChatGPT-4 d'écrire un poème à la façon de Baudelaire. Alors, j'ai pas vu le résultat final, mais il semblerait que ça peut rentrer dans les fleurs du mal sans problème, quoi. Ouais. Et qu'on y verrait que du feu.
À la version d'avant, ça, c'était pas génial. Voilà. Ça s'améliore beaucoup, là.
Ça vous inquiète ou pas, Mathieu Plane, Christian Parizeau? C'est le côté exponentiel qui, ouais, effectivement, est tout à fait très, très, très impressionnant.
Alors, exponentiel, mais quand même, faut pas l'oublier, c'est qu'il consommera toujours plus d'énergie qu'un cerveau humain. Mais, pour faire des choses, pour l'instant, oui, mais ça reste encore vrai. Et puis, d'autre part, il ne fait que imiter. C'est le père de l'intelligence artificielle qui avait parlé au début de on saura qu'on a une vraie intelligence artificielle le jour où on pourra avoir un imitateur de l'intelligence qu'on pourra pas savoir si on a un être humain ou pas.
C'est
Monsieur Turing qui nous a aidé.
C'est impossible
de savoir.
C'est justement, il peut aujourd'hui. On a une vraie intelligence artificielle dans cette définition là où on a un imitateur. Mais on n'est pas sur de l'intelligence. On est quelqu'un qui imite l'intelligence. Mais ceci dit, ça, d'avoir un imitateur, on peut faire beaucoup de choses en imitant l'intelligence. Le problème, c'est qu'il peut faire un poème comme Baudelaire, mais parce qu'il y a eu Baudelaire avant. Mais il n'aurait pas créé Baudelaire. Donc c'est ça la grosse différence. Mais par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que économiquement, son potentiel est énorme, parce que nous, dans nos métiers, on fait beaucoup de choses où on répète ce qu'on a fait précédemment, où on répète des process. Et donc là, très clairement, pour l'emploi des cadres, sur une partie de leur activité d'emploi, ça va être énorme. Alors, on va dire que ça va être une petite partie, parce qu'il n'y a pas la créativité, il n'y a pas cet aspect-là. Mais attention, parce que ça veut dire qu'on va avoir beaucoup besoin de beaucoup moins de personnes pour faire la même chose. Parce que tout ce qui est routinier, tout ce qui est répétition, qui ne demande pas de créativité, et ben ça, par contre, ça pourra être remplacé par cet atelier.
Un mot, Mathieu.
C'est intéressant, parce que là, c'est quand même une révolution, et c'est voir comment on va s'adapter à cette révolution, y compris sur ce qui a été dit par Olivier, sur le marché du travail, dans l'éducation, sur un certain nombre de choses. Et pour boucler avec ce débat sur les retraites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de l'horizon 2030, c'est qu'est-ce que va avoir cet effet-là sur l'emploi, sur la productivité. à long terme. On est quand même face à quelque chose qui est assez particulier jusqu'à présent, c'est qu'on a quand même des révolutions qui avaient commencé dans le digital, mais on voyait, comme disait justement l'autre, j'allais dire, on voyait des ordinateurs partout, sauf dans les chiffres, quoi. Et la question, c'est est-ce qu'on le verra un jour, justement, sur les transactions productives, et est-ce que ça va remplacer l'emploi aujourd'hui?
J'ai jamais eu peur vraiment des robots, mais je me suis toujours dit, le jour où l'intelligence au silicium remplace l'intelligence carbonée, se passe un petit quelque chose. Et c'est pas un petit quelque chose. Merci Olivier Babot, Christian Parizeau, Mathieu Plane. Rendez-vous demain 9h.